C'est avec joie que je vous retrouve depuis la dernière fois. Nous étions ensemble en septembre dernier. Ça passe vite, hein? Et le dernier message que je vous avais donné touchait à l'enlèvement de l'Église, bien entendu. Eh bien, comme je vous avais laissé sur l'enlèvement, qu'est-ce qui suit l'enlèvement pour la terre? La tribulation. Et puis, au bout de la tribulation, le retour en gloire. Alors, nous allons essayer de couvrir ces thèmes, qui sont des thèmes tellement importants, surtout au regard de notre conjoncture actuelle, qui prépare ces temps de façon tellement, j'allais dire, remarquable en même temps qu'impressionnant. C'est impressionnant. La façon dont les choses s'accélèrent vers cette période, justement, de la tribulation, de la grande tribulation en particulier. Alors, nous traitons justement de la grande tribulation qui va faire suite sur la terre à l'enlèvement de l'Église. Alors, nous lisons plusieurs textes en Matthieu 24. Nous lisons à partir du verset 15 au verset 28e. Ceci concerne les Juifs. Il y a plusieurs signes. Il y a les signes des nations, dans Matthieu 24, comme d'ailleurs dans Luc 17 et 21. Il y a les signes touchant à Israël. Il y a les signes dans le ciel. Et puis, il y a aussi les signes de l'Église. Ce sont les quatre grands signes auxquels nous devons constamment faire attention. Nous n'avons pas de date, nous n'avons pas d'heure non plus, pour ce qui est de l'enlèvement et puis aussi du démarrage de la grande tribulation. Mais à partir des signes, nous pouvons voir se mettre en place le puzzle prophétique dont la Bible nous fait part. Alors, nous lisons ces textes, Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que ce texte nous dit déjà? Eh bien, que ce qui s'est passé d'abomination sous Antiochus Épiphane, bien avant le Seigneur et qui fut annoncé par Daniel, ne correspond pas à ce qui fut annoncé par Daniel. Parce que beaucoup interprètent l'abomination de la désolation annoncée par Daniel, réalisée par Antiochus Épiphane. Or, Antiochus Épiphane, qui a été l'un des grands messieurs de cet entretemps entre Daniel et Jésus-Christ, ne fut pas celui qui fut annoncé, puisque Jésus annonce des temps d'abomination qui ne se sont pas encore passés. C'est clair? Ça va? C'est très important, cela. C'est pourquoi lorsque vous verrez, et pourtant, Antiochus Épiphane en a fait des choses, hein, jusque dans le temple, comme vous le savez, il a été une sorte de prototype de l'Antéchrist, l'annonçant de façon prophétique, mais il n'a pas été celui qui a été annoncé par Daniel, puisque Jésus est venu beaucoup, bien du temps après Antiochus Épiphane, et il rappelle la prophétie de Daniel. Donc cette prophétie ne touchait pas, ne concernait pas uniquement Antiochus Épiphane, lequel, comme vous le savez, à la suite d'une défaite avec l'Égypte, s'en était pris aux Juifs, leur faisant savoir qu'il n'avait pas été aidé dans sa bataille, dans sa guerre contre les Égyptiens. Il avait expliqué sa défaite contre l'Égypte par le fait qu'Israël n'avait pas voulu se joindre à ses armées, et pour se venger de cela, Antiochus Épiphane était entré dans le temple, il avait égorgé un porc sur l'autel, comme vous le savez, et il avait fait élever une statue d'une divinité païenne dans le temple. Alors tout ceci aurait pu être pris pour l'abomination de la désolation, mais c'est un peu ce que fera l'Antéchrist lorsqu'il viendra, mais de façon beaucoup plus spectaculaire. De telle manière qu'Antiochus Épiphane a été comme une sorte de prototype de l'Antéchrist. Mais Jésus, annonçant cette abomination de la désolation, elle n'a donc pas eu lieu, elle n'avait pas eu lieu en son temps à lui, puisque elle était à venir. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Alors ces derniers temps, nous avons un peu tremblé. Pourquoi ? Qui se souvient ? Tempête de neige à Jérusalem, hein ? Avec un froid tout à fait exceptionnel. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Hein ? Ce qui était assez exceptionnel pour la Palestine, et même d'autres pays en Palestine, comme la Jordanie, ont été rudement secoués par des tempêtes de neige tout à fait uniques, comme il ne s'en était pas passé depuis des lustres. Donc, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en eut point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ça c'est certainement les Juifs, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Il s'élèvera donc de faux Christ en Israël, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair de l'Orient part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, le cadavre ici est une illustration de l'Israël corrompu sur lequel va s'abattre toutes les nations. Là s'assembleront les aigles. Jésus rapporte donc ce que Zacharie avait déjà annoncé en Zacharie 14, que toutes les nations monteront contre Jérusalem. Voilà donc un premier texte du Christ, justement, concernant la grande tribulation, puis nous lisons encore un autre texte repris par Luc à bien des égards en Luc 21. Oui, avant de passer à Luc 21, je vous rappelle que dans le paragraphe touchant au signe des nations et qui va en Matthieu 24, du verset 4 au verset 14, les signes des nations, il est question aussi de faux Christ. Donc il y en aura aussi parmi les nations, et entre autres celui que je dénonce dans ce livre, et qui s'appelle comment ? Maitreya, et qui vient de paraître où ? À Londres. Hein ? Alors, est-ce que je suis passé depuis ce que j'en ai parlé ? Parce que ça, il s'est révélé à Londres. Hein ? Il s'est fait connaître maintenant. Il habite Londres, c'est un Pakistanais, je vous l'ai dit, non ? Non. Alors, profitons-en pour vous le dire. Bon, c'est un homme, paraît-il, assez impressionnant, certainement quelqu'un de très charismatique, pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens psychologique, intellectuel, dans sa dimension, j'allais dire spiritualiste. C'est un homme assez impressionnant. Donc il a donné une conférence de presse, il a eu devant lui des membres de la famille royale, en même temps que, j'allais dire, des représentants des grands médias britannique sur ses déclarations. Bon, pour lui, ça a été une première façon de se faire connaître, mais il envisage maintenant de se faire connaître dans le monde entier, et il annonce que partout dans le monde, les New Agers prient pour l'avènement de l'ère du Verseau sous son égide à lui. Donc il y a des forces diaboliques, des forces sataniques qui sont libérées par ces grands mouvements de prière dont il est l'initiateur maintenant et qu'il s'est fait connaître ouvertement au monde. Mais il dit que ça a été simplement un premier contact, qu'il va revenir sur la scène. Déjà, il a fait pas mal de prodiges, de miracles sur scène devant justement pas mal de monde. Et ce monde-là, qui a été présent à sa première prise de contact, avait été assez impressionné par cet homme, tant dans les miracles qu'il a fait sur scène, que par sa dimension, je dirais pas spirituelle, parce que on risque de confondre avec ce mot que nous employons souvent dans le milieu, mais c'est par sa dimension spiritualiste. Donc il est question de faux Christ dans les nations et de faux Christ en Israël, de faux prophètes en Israël. Et nous lisons maintenant quelques textes en Luc 21 qui rejoignent un peu ce que nous venons de lire à partir du verset 20, enfin les versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Alors, c'est une reprise de Matthieu 24, que nous venons de lire. Sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Donc la grande tribulation, en fait, concerne surtout le pays d'Israël, mais comme nous le verrons plus tard, les nations aussi, toute la terre. Et de la colère contre ce peuple, donc ce peuple, il s'agit du peuple d'Israël. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, pour ceux qui pensent que le retour d'Israël s'est déjà effectué 70 ans après la captivité sous le roi Cyrus, se fourvoient, parce que là, Jésus annonce, bien après le retour, disons, des Juifs, des quelques Juifs, ils ne sont pas rentrés nombreux, hein, de la captivité de Babylone, enfin l'histoire, vous vous en rappelez. Les plus riches étaient restés à Babylone, les plus humbles étaient rentrés, ceux qui croyaient dans la promesse de Dieu concernant Israël, sous Esdras, Néhémie, etc. On ne peut donc pas rapprocher les deux événements, parce qu'au moment où Jésus a dit ces choses, il les a dites des siècles après le retour de Babylonie sous Esdras et Néhémie. Là, Jésus annonce une dispersion d'Israël parmi toutes les nations et un rassemblement d'Israël à la fin du temps des nations. Et ceci n'a rien à faire donc avec le retour des Juifs de Babylonie sous Esdras et sous Néhémie. Ceci pour clarifier les choses, parce que souvent elles apparaissent assez confuses dans l'esprit des chrétiens qui se posent la question de savoir si, en fait, le retour dont il est parlé par Ésaïe, ce grand retour à la fin des temps, dont il est parlé par Jérémie, par Ézéchiel, ne s'est déjà pas passé. Non, certainement pas. Bien que ces prophètes aient prophétisé, pour la plupart d'entre eux en tout cas, pas Ézéchiel, puisque Ézéchiel était en captivité, lui, Jérémie, lui, l'a connu, il l'a vécu dans une certaine mesure. Ésaïe, lui, l'avait annoncé, cette captivité à Babylone. Bien que ces prophètes avaient tous paru bien avant, en fait, le retour de la Babylonie, quand ils ont parlé du retour, j'allais dire, de toutes les nations qui sont sous la terre, eh bien, il s'agissait de ce retour que nous voyons sous nos yeux, et qui représente le signe des temps le plus important qui soit, entre autres signes des temps. Voilà, alors il est tellement important de d'avoir à l'esprit dans cette étude, les Juifs seront emmenés captifs parmi toutes, seront. Donc il n'est pas du tout question de la première captivité. Captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Pour ce qui est de la tribulation touchant aux nations. Alors, immédiatement après ce que nous venons de lire en Luc 21, Jésus a dit ce qui suit, Luc 21, 25, 26, sur la terre. Alors maintenant, ça n'est plus Israël contre ce peuple, ni contre ce pays, n'est-ce pas ? Sur la terre, ça c'est pour les nations, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront plus que faire au bruit de la mer et des flots. La mer et les flots, c'est quoi ? Alors, nous en avons donc une description. La Bible, il est important que la Bible s'explique par la Bible. Nous ouvrons nos Bibles en Apocalypse 19, et nous en avons une explication. Pardon, 17, Apocalypse 17, 15. N'est-ce pas ? Il était question des eaux, de la mer avant. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, au bruit de la mer et des flots, ça veut dire quoi ? Au bruit de ce tumulte parmi les nations, dont il est question au psaume 2e. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Or, il me semble vous avoir dit, la fois passée ici même, qu'à partir de Luc 21, 29 et la suite, que précisément, non seulement Israël sera en pleine ébullition, ce qui est le cas à l'heure qu'il est, en raison de ce retour massif au peuple, sur la terre des ancêtres, mais Jésus ayant dit en Luc, quand vous verrez le figuier pousser des feuilles tendres et tous les autres arbres. Or aujourd'hui, nous assistons justement à un bouillonnement des nations, quelque chose de tout à fait inouï comme le monde n'en a jamais connu. Quand nous pensons à l'implosion et même à l'explosion maintenant du bloc de l'Est et les guerres qui s'y trouvent, quand nous pensons à l'Allemagne, à la création de l'Europe, on en dira quelque chose tout à l'heure, et quand nous pensons à tout ce bouillonnement un peu partout dans le monde, partout où l'homme vit alors qu'il est sur la terre, il est en effervescence. On ne peut pas dire qu'il y ait un seul endroit qui soit paisible sur la surface de la terre. Des pays avaient été gardés, comme la Suisse par exemple. La Suisse, à l'heure qu'il est, connaît une inflation absolument épouvantable. Elle connaît maintenant un chômage qui galope et qui risque d'en arriver à des taux comme nous les avons en Belgique, au Canada où j'étais ce jour dernier, et puis en France. La Suisse n'est pas du tout épargnée maintenant. L'Allemagne, qui était un pays assez gardé, avec un franc très fort, pour avoir tenté d'avaler l'Allemagne de l'Est, connaît des problèmes économiques comme jamais précédemment. Alors, en fait, nous sommes en pleine ébullition partout. Alors, voici ce que nous dit le Christ sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Là, je pose une question, vraiment, et je la pose très souvent dans mes campagnes d'évangélisation, à mes auditoires. Dites-moi, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans le monde ? Y a-t-il un domaine où nous pouvons dire, tiens, dans ce domaine, ça va bien ? Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus que faire au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer, c'est-à-dire des peuples qui bougent. C'est fou, ça. Les hommes rendant l'âme de terreur au niveau de la terre, pas de ce peuple seulement. La grande tribulation touchant à l'ensemble du monde entier, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Mais pour en revenir à Israël, Jérémie le prophète avait annoncé un temps d'angoisse pour Jacob en Jérémie 30, verset 7. Et nous croyons que ce temps d'angoisse pour Jacob n'est pas loin au regard de ce que nous sommes en train de vivre concernant Israël et les nations. Alors, pour ce qui est d'Israël, des prophètes comme Sophonie, Joël, Zacharie ont réellement prophétisé de façon précise en même temps que frémissante. Sophonie a parlé du grand jour de l'Éternel. Jour de détresse et d'angoisse, Sophonie 1, 14 et 15. Joël a parlé en Joël 1, 15, « Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. » Toujours ce même Joël, au chapitre 2, au verset 12, « Jour grand et terrible, jour de ténèbres et d'obscurité. » Quant à Zacharie, au chapitre 10 et au verset 22, « La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. L'Éternel, désarmé, l'accomplira dans tout le pays d'Israël. » Donc, jour de terreur, à la limite, certainement. Je crois qu'il n'y a pas de mots peut-être plus faibles à employer. Au regard de cette tribulation de Jacob, Israël marche au-devant de problèmes absolument terribles, comme il n'en a jamais connu, en tout cas depuis qu'il est rentré de tous les pays du monde, quelques 120 pays à l'heure qu'il est. Le Nouveau Testament précise la durée de ces temps de grandes épreuves sur le monde, et en particulier sur Israël, par exemple, en Apocalypse 11:2, il est dit que les nations fouleront la ville sainte. C'est donc Jérusalem. Pendant 42 mois, ce qui représente combien de temps ? 3 ans et demi. Il est question encore de ces 3 ans et demi, exprimés différemment en Apocalypse 12:6, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et là, nous pouvons réellement penser qu'il s'agit encore de 3 ans et demi. Et puis, en Apocalypse 3:5, à propos de la première bête, l'Antéchrist, à laquelle il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, à nouveau donc, pendant 3 ans et demi. Alors, pourquoi 3 ans et demi ? 3 ans et demi représente la moitié de 7. Or, à partir de textes nombreux dans les Saintes Écritures, et surtout à partir de Daniel 9, nous pouvons savoir que 69 semaines à partir d'un décret, ça je crois qu'il est important que nous rappelions ces choses, puisque nous allons entrer dans ce que la Bible appelle la 70e semaine. Nous lisons en Daniel 9 quelques versets. Il fut dit donc à Daniel ce qui suit. Sois attentif, verset 23, à la fin du verset 23. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc là, il faut savoir qu'il s'agit aussi du retour en gloire de Jésus-Christ pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, justement, c'est l'Antéchrist, une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Alors, vous remarquez qu'il y a question de 2 semaines pour commencer. Il s'agit de semaines d'années, d'un mot hébreu shavua, et qui peut être rendu par unité de 7 ou cycle de 7. donc, il est tout à fait possible de comprendre ces semaines comme étant des semaines d'années. Il est question donc de 2 semaines, puis de 62 semaines, et enfin d'une dernière semaine, la 70e. Alors, 2 plus 62, ça fait 69, plus une dernière semaine, 70. OK ? On y est, là ? Bon. Alors, les 2 premières semaines correspondent, j'allais dire, à Esdras et à Néhémie, lesquels étaient revenus de la captivité pour rebâtir Jérusalem en même temps que le temple de Jérusalem. À partir de ces 2 semaines, il faut ensuite compter 62 semaines jusqu'à loin, qui doit être retranché. Et à partir de calculs, je ne veux pas entrer dans ces calculs, mais je peux vous dire, bon, il y a peut-être divergence en ce sens que notre calendrier ne compte pas le nombre de jours dans une année comme était compté le nombre de jours dans une année en ce temps-là. À partir de 42 mois, par exemple, ou d'un temps, des temps, et la moitié d'un temps, ou encore, d'une autre expression, 1260 jours, surtout à partir de cette expression 1260 jours, pour 3 ans et demi, nous savons que l'année prophétique et l'année biblique sont de 360 jours et non pas de 365 jours. Hein. Voilà, d'où un peu le décalage qu'il peut y avoir entre certaines interprétations. Mais j'allais dire, grosso modo, on retombe à peu près tous sur nos pieds, de façon assez remarquable, et nous pouvons réellement affirmer que cette prophétie de Daniel à partir d'un édit, celui d'Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à loin, il y a eu vraiment 62 semaines d'années. 69 semaines d'années, absolument. Ensuite, il y a eu une sorte d'intervalle ou de parenthèse qui correspond à l'Église et à son cheminement sur cette terre depuis sa création à la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Ça, c'est une période, j'allais dire, assez mystérieuse dans l'Ancien Testament, mais qui peut se découvrir quand on creuse assez la question. Par exemple, quand Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Je me laisserai trouver par ceux qui ne me connaissaient pas et j'appellerai à moi une nation, un peuple qui n'est pas mon peuple, n'est-ce pas ?» On peut deviner à partir de prophètes comme Ésaïe et d'autres prophètes que Dieu avait en vue certainement un autre peuple pendant un temps, j'allais dire, à la place d'Israël. L'Église elle-même n'avait pas été révélée, puisqu'elle est appelée un mystère dans le Nouveau Testament, mais que, pour ce qui nous concerne, nous pouvons discerner que ce peuple auquel Dieu fait allusion par la bouche de ses prophètes, en particulier Ésaïe, correspondait à celui de l'Église. Bon, le temps de l'Église va prendre fin au moment de son enlèvement. Alors, à partir de l'enlèvement de l'Église, commence la 70e année qui n'arrive pas à se découvrir nulle part pendant le temps de l'Église sur cette terre. Mais à partir de textes comme nous venons de les lire, alors nous pouvons réellement savoir qu'il s'agit de la 70e semaine, surtout que dans cette 70e semaine, nous dit Daniel le prophète, au début, surtout, l'Antéchrist contractera des alliances avec plusieurs peuples, et en particulier avec le peuple d'Israël, pour une semaine, c'est la dernière semaine, et que ce temps concerne la fin. Or, le temps qui concerne la fin est réellement celui de la grande tribulation. À partir de là, il était nécessaire de rappeler ces choses que peut-être vous avez déjà su, appris, entendu. Il est bon de savoir ce qui suit. Dans ces 7 ans, à partir de l'enlèvement de l'Église, 2 périodes. Une première période, je dirais, de séduction. dans laquelle l'Antéchrist apparaîtra comme l'homme de la paix. Ça, c'est tellement clair. Il est présenté comme assis sur un cheval blanc, Apocalypse 6, pour singer, en fait, le Christ. Ce cheval blanc du chapitre 6 de l'Apocalypse n'a rien à faire avec le Christ lui-même. C'est le faux Christ. Mais pour séduire, justement, le diable le fait paraître un peu comme le Christ en Apocalypse 19. Mais ce faux Christ-là, dans un premier temps, en arrivera à séduire toutes les nations. Et Jésus ne cesse pas d'employer ce terme de séduction, de séduction, de séduction. Il séduira même les élus, les juifs, etc. en ce temps-là. Bon, pour moi, je pense que quand il apparaîtra, nous serons partis. L'Église sera partie. Mais je ne dis pas que nous ne le connaîtrons pas du tout. Ça, il reste à voir. Il se peut que nous le voyons arriver, cet Antéchrist, surtout à la lumière de textes comme 2 Thessaloniciens 2 que nous pouvons reprendre et qui semble présenter une difficulté parce que, dans un premier temps, il est dit que l'apostasie avec lui doit paraître avant l'enlèvement. Puis ensuite, il est dit qu'il ne peut pas paraître parce que quelqu'un le retient. Il y a donc ici, disons, une difficulté que chacun tente de résoudre un peu comme il le voit. Mais je ne pense pas que nous devions entrer en conflit à cause de ça. Bon, moi je dis qu'il se peut que nous ayons à le voir un certain temps, n'en sais rien. Disons peut-être le départ de cette grande période de séduction, le départ de ces 7 années de tribulation, pour commencer, de grandes tribulations qui se coupent en deux. Les 3 premières années et demie, des temps tout à fait remarquables pour la terre avec l'homme providentiel. En fait, c'est ça, l'Antéchrist. Le sauveur qu'Israël même prendra pour le Messie, c'est vous dire, Il le prendra pour le Messie puisqu'il contractera une alliance avec Israël. Mais c'est au milieu de la semaine, après 3 années et demie, qu'Israël va se rendre compte que réellement, c'est pas du tout celui qui était attendu. Et lui-même rompra son alliance avec Israël. Et c'est à partir de là qu'Israël entrera dans ces temps de tribulation de Jacob, comme il n'en a jamais connu. Alors, les 3 premières années et demie seront des années d'euphorie. Pour la terre, enfin, le problème du chômage réglé, le problème de la violence fini, terminé, tous ces problèmes de l'environnement, sûrement, il aura des solutions absolument mirobolantes, au point que la terre tout entière dira « Mais qui est comme la bête ?» Et toute la terre se prosternera à ses pieds pour l'adorer et le prendre pour Dieu. Et c'est dans ces 3 premières années et demie que cet homme acceptera qu'Israël rebâtisse son temple pour qu'il puisse ensuite, dans la deuxième partie de ce temps de séduction et de tribulation, et de grande tribulation pour Israël, entrer dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu, n'est-ce pas ? Et faire un peu, mais sur une plus grande échelle, à l'échelle non seulement de la Palestine, mais du monde entier, ce qu'Antiochus Épiphane avait fait, disons, annoncé par Daniel, disons, en partie, mais de façon encore plus abominable et plus horrible. Alors, voilà comment il faut voir un peu cette 7e semaine. Les 3 premières années et demie seront des années de grande séduction pour Israël et pour toute la terre. L'Antéchrist passera pour le Sauveur, l'Église apostate le prendra pour le Sauveur, le Christ qui revient. Voilà pourquoi l'Antéchrist, qui veut dire deux choses, qui veut dire avant le Christ, et en effet, il reviendra pour la terre avant le retour en gloire de Christ, ou encore, qui veut dire Antéchrist, qui veut dire à la place de Christ et contre le Christ. Alors, il y a plusieurs significations à cette expression que nous avons parfois de la peine à saisir également. Alors, il est évident que dans ces trois premières années, pour l'Antéchrist, ce sera le succès mondial, avec des solutions pour toutes les nations. Mais alors qu'il est, le problème d'Israël est absolument insoluble. C'est lui qui apportera la solution au problème d'Israël. Bon, les Juifs rentrent au rythme que vous savez. Ils arrivent surtout du Septentrion, mais ils arrivent aussi du monde entier. Ils arrivent du Septentrion, donc de la Russie, beaucoup. Ils s'installent sur les territoires occupés. Les territoires occupés ne peuvent être absolument pas rendus, sinon Israël se retrouve dans une situation absolument insoluble pour accueillir tous ceux qui arrivent, pas à cette place. Donc personne ne peut résoudre ce problème. L'Amérique elle-même ne sait plus sur quel pied danser. Elle a même été jusqu'à demander à Israël d'arrêter l'implantation de colons juifs sur les territoires occupés, ce qui ne peut pas s'arrêter. Où est-ce qu'on va les mettre ? Mais ils arrivent toujours, ils arrivent encore de plus en plus nombreux, au grand désespoir des Arabes et notamment des Palestiniens. C'est l'Antéchrist qui va apporter la solution. Voilà pourquoi nous croyons que réellement il n'est pas loin. Quand nous voyons l'Amérique qui maintenant commence à changer de bord apparemment, qui refuse à Israël ses milliards de dollars promis, parce qu'Israël veut absolument mettre ces milliards de dollars votés par le Congrès américain à l'implantation de nouveaux colons sur les territoires occupés, ce qui met les États-Unis en difficulté vis-à-vis des Arabes et notamment des Palestiniens. L'Amérique donc prend une position de retrait vis-à-vis d'Israël, et elle est tout à fait normale, cette position de retrait, car toutes les nations devront se mettre contre Israël, jusqu'aux États-Unis elles-mêmes. Alors, nous sommes en train de vivre ces choses. Et pour finir, qu'arrivera-t-il justement d'Israël ? Eh bien, un peu ce qui est arrivé avec Saddam Hussein, les nations vont se liguer au plan militaire et politique contre Israël pour réduire Israël à ses frontières de 1967, d'avant la guerre des Six Jours. Hein, pour le ramener à ses frontières, ceci va faire une guerre mondiale, incontestablement. Alors, nous verrons cela dans quelques moments, mais nous en sommes justement à cette grande période de séduction et qui verra l'Antéchrist arriver comme le sauveur du monde, le sauveur temporel, acclamé non seulement par les Juifs, mais par toutes les nations, et acclamé aussi par une chrétienté, parce que la chrétienté continuera d'être sur la terre. L'authentique Église, elle, sera partie, mais la chrétienté, elle, sera toujours sur la terre et l'acclamera comme véritablement le Christ revenu, et l'adorera. Ceci, il faut le dire, c'est très important. Et ces temps que nous vivons sont tellement importants qu'à l'heure qu'il est, en Israël, qui a été en Israël il y a peu de temps ? Personne, hein ? Il y a 5 ans. Les Juifs, mais il y a moins de cela, surtout à partir des négociations qui ont eu lieu l'an dernier entre Juifs et Palestiniens, qui étaient absolument impensables il y a 10 ans, hein, et qui vont se poursuivre à Rome, hein, dans peu de temps. Les Juifs croyants, les Mehacheharim surtout, hein, de la région de Jérusalem, là, alors qu'ils se promènent dans les rues de Jérusalem avec de grandes pancartes qui disent quoi ? Nous entrons dans des temps messianiques. Les Juifs religieux eux-mêmes le croient. Et ils attendent le Messie. Et le Messie, c'est celui qui les sortira de cet imbroglio absolument sans solution à l'heure qu'il est pour les nations. L'Europe va entrer dans la danse incontestablement pour faire pression sur Israël. Elle fait déjà pression sur Israël. Mais pour l'heure, c'est surtout les Russes, en accord avec les Américains, qui font, et bien entendu avec tous les pays arabes, qui font pression sur Israël. Après ces 3 années et demie d'euphorie pour toute la Terre, alors on entrera dans une deuxième période très, très difficile que la Bible appelle la période de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister, Apocalypse 6, 16, 17. Alors, la colère de l'agneau. Est-ce que vous avez vu un agneau en colère? Ça donne quoi, ça? Oui, mais cet agneau en colère n'est pas du tout l'agneau, j'allais dire, celui que Jean-Baptiste a présenté à Israël. C'est le même, mais c'est l'agneau glorifié. Tenez, regardez un peu ce qu'il en est de l'agneau glorifié. Il est bon d'en avoir une idée, hein. En Apocalypse chapitre 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. » Corne, c'est la force dans la Bible, hein. 7 cornes et 7 yeux. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, c'est l'agneau dans toute sa puissance retrouvée. C'est l'agneau glorifié, lequel entrera dans un temps de colère contre Israël et contre les nations. Dans ces jugements-là, de ces 3 dernières années et demie, la Bible annonce, en Zacharie 13:8, que les 2/3 des Juifs périront. C'est énorme. Il n'en restera plus qu'un tiers. Et c'est précisément ce tiers-là qui certainement se tournera et criera vers Dieu pour son salut et sera sauvé au jour du retour en gloire. Tandis que pour la terre, il est prévu aussi énormément de guerres dans ces temps-là. En Apocalypse 6, le quart des hommes devront mourir, avec le cheval noir, le cheval pâle, plutôt, le dernier, hein. Il y a 4 chevaux de l'Apocalypse, hein. Le cheval blanc, ça c'est le temps de séduction, le cheval de la paix, de la fausse paix, quand les hommes diront paix et sécurité. Ensuite, le cheval roux, c'est le cheval de la guerre, ça c'est la tribulation. Suivi du cheval noir, celui du rationnement des denrées sur la terre. Vous savez, la terre n'en a pas fini, hein. C'est lui qui se présente avec la balance et qui pèse les denrées alimentaires. Et puis ensuite, le cheval pâle, qui est l'image de la mort, qui devra frapper le quart des hommes sur toute la surface de la terre, ce qui est beaucoup. En Apocalypse 9:15, il est question du tiers ensuite de ce quart. Enfin, des 3/4 qui seront restés. Donc imaginez un peu les fléaux qui vont s'abattre, non seulement sur Israël, pour son problème insoluble, mais aussi sur toutes les nations, et surtout sur toutes les nations qui auront combattu contre Jérusalem. L'Église et le Saint-Esprit ayant été enlevés et retirés de la terre avant ces jugements, le monde passera sous le règne du mensonge et sous le règne de toutes les puissances diaboliques. 2 Thessaloniciens de 1 à 11. C'est à ce moment-là aussi, et surtout dans le milieu de la semaine, que précisément Satan sera précipité sur la terre. Et dans ces temps-là, tous adoreront le dictateur mondial, la bête, bien entendu, dans un premier temps par séduction et dans un deuxième temps par la force. Tous devront marcher, parce que c'est comme cela que les temps de dictature commencent, généralement par la séduction, et ils se finissent par la force. Mais la Bible dit que dans ces 3 années et demie, qui achèveront le temps de la tribulation, Dieu se gardera néanmoins un témoignage sur cette terre, et il le fera par 2 témoins.